C'est un podcast Vivre FM.
21 juin. Vivre FM fête la musique et la fin de saison. Vivre dans le noir.
Alors on fête effectivement la fin de saison dans le noir absolu avec un invité, une histoire encore inspirante après celle de Magali Rochereau. Cédric Lecomte, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes un illustre inconnu pour le grand public, mais vous allez être connu après parce que vous arrivez une histoire un peu, je ne vais pas dire incroyable, mais quelque chose qui est peut-être dur à gérer pour pas mal de gens, et vous en faites une force positive qui est assez surprenante. Vous êtes un papa divorcé et vous vous occupez de vos deux filles, deux vraies jumelles qui sont atteintes d'une maladie génétique. Et qui donc vivent toutes les deux avec le même handicap. Alors, on reçoit souvent à l'antenne de Vivre FM des personnes, en général des femmes, qui sont isolées avec un enfant handicapé, et on voit le chemin, les difficultés que ça représente. On n'imagine pas ce que ça peut être quand c'est x2. Comment vous faites, Cédric ?
Quand c'est x2, c'est deux fois plus compliqué. Et ça a été deux fois plus compliqué dès leur naissance. Et on a tout de suite su qu'elles avaient un souci, puisqu'en fait, il y avait une malformation physique. Et donc ça a été deux fois plus compliqué de gérer la situation avec leur maman. Et aujourd'hui, elles ont 16 ans. Donc c'est 16 ans de recul par rapport à cette complexité.
Et cette complexité, elle commence dès la découverte du handicap. C'est-à-dire que comment elles sont, comment vous les avez ou on les a orientées à la naissance en s'apercevant qu'elles avaient ce handicap ?
En fait, elles avaient donc leur maladie génétique a généré pour les deux, hein, puisque génétiquement elles ont la même ADN, puisqu'elles sont vraies jumelles. Et donc tout de suite, elles avaient une malformation des paupières, et donc on a tout de suite le corps médical a tout de suite su qu'elles avaient un souci, puisque leurs paupières étaient complètement fermées. Et donc, on a tout de suite commencé à travailler avec le corps médical à partir de là, puisque leur maladie pouvait générer différentes difficultés, différentes pathologies.
Ça pouvait se cumuler, s'amplifier, c'était évolutif ?
Alors, en fait, ça pouvait se cumuler, puisqu'en fait, la maladie en question génère pas mal de difficultés cardiaques.
Vous pouvez mettre un nom sur cette maladie ?
Ça s'appelle BPES, blépharophimosis épicanthus inversus, en version syndrome.
D'accord.
Il y a assez peu de cas en France en version syndrome. En revanche, la maladie existe en version uniquement malformation des paupières. Mais elle l'avait de façon avec cette maladie génétique. Et donc la difficulté a été, dès leur naissance en fait, elles sont nées à 35 semaines, hein, et donc elles sont restées en couveuse pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines-là, il y a déjà la découverte du fait qu'elles aient cette maladie, puisqu'on ne le savait pas avant que leur maman accouche. Et puis ensuite, les premiers pas du chemin qui démarrent et sans savoir ce qui nous attend. Et c'est ça la plus grosse difficulté. Surtout qu'effectivement, elles étaient deux. Et donc, en sachant tout de suite que ça va être deux fois plus compliqué.
Alors, le ciel vous tombe un peu sur la tête à ce moment-là. La réaction pour vous, c'est de ne pas baisser les bras, si j'ai bien compris. Mais partir dans cet inconnu, est-ce que vous avez été chercher un peu ailleurs, comme Magali Rochereau nous l'expliquait, elle fait un podcast qui parle de cancer du sein, de cette épreuve, comment on la traverse. Est-ce que vous avez eu des informations ou des partages avec d'autres personnes concernées également pour ne pas trop naviguer à vue et avoir une idée de ce qui pouvait vous arriver ?
En fait, on s'est tout de suite mis en recherche d'informations déjà sur cette maladie-là. Qui est plus présente et plus fréquente en Asie et en Amérique du Sud. Et donc avec des recherches assez approfondies qui avaient été faites au Canada. Et donc avec des pathologies qui peuvent être assez larges, notamment d'un point de vue moteur, et donc je le disais précédemment, d'un point de vue au niveau du cœur. Et donc on fait ces premières recherches, mais le corps médical, dès le départ, nous dit que ça va être compliqué.
C'est tellement rare qu'il n'y a pas grand-chose dessus.
Il n'y a pas grand-chose dessus, dans tous les cas en France. On nous oriente dès le départ vers quelqu'un, vers la Fondation Rothschild, pour une opération des paupières, parce que là-bas, il y a un spécialiste quasi mondial qui opère des paupières. Et donc, on nous oriente vers ce spécialiste-là. Mais sur le reste, de la maladie, en fait, on nous dit bah, il va falloir attendre et de voir comment elles grandissent.
Donc pas d'échange avec d'autres parents éventuellement?
Non.
Donc là, vous vous sentez un peu isolé quand même?
On se sent isolé. On se sent d'autant plus isolé que on n'a ni leur maman ni moi n'avons eu affaire au handicap et à la situation de handicap en général dans nos familles respectives ou dans nos proches. Et donc c'est tout de suite une difficulté. Et donc on les laisse grandir, sauf que à 9 mois elle ne s'assied toujours pas. Et que là, on a un généticien qui nous dit de façon assez durement, dans tous les cas difficile à entendre, que si elle ne s'assied pas, eh ben, c'est qu'elles ne s'assieront jamais.
Sympa.
Ouais. Et donc, finalement, elles doivent être à l'écoute parce que quelques jours plus tard, elles s'assied. À 20 mois.
Toutes les deux en même temps ?
Non, ou... en fait, il y en a toujours une qui s'est assise en premier. Enfin, dans tous les cas, il y a toujours une qui a été le moteur et l'autre qui a suivi dans les jours qui ont suivi.
Alors, c'est justement ça qui est vraiment exceptionnel, puisque vous m'avez raconté cette histoire il y a quelques temps. C'est qu'en fait, elles sont devenues un rôle modèle l'une pour l'autre et qu'elles s'entraînent, elles s'entraident. Il y a une solidarité incroyable entre les deux, alors qu'elles vivent parfois les mêmes situations, mais des situations qui sont très très difficiles.
Ben en fait, elles ont partagé ça, donc elles s'appellent Sophia et Roman, elles ont partagé ça en fait au travers de tout leur chemin, c'est-à-dire qu'elles sont passées dans un CAMS au Mureau, donc qui prend en charge et qui donne par exemple de la psychomotricité, de l'ergothérapie. Et ensuite, elles sont allées dans un CESAD, donc c'est dans une école primaire et c'est relié à un lieu. Mais tout ce cheminement, et après, elles sont aujourd'hui dans une école qui s'appelle la Fondation Mallet, qui est pour des enfants qui ont des problématiques moteurs, puisqu'elles ont des problématiques de motricité fine. Et donc, elles ont fait ce chemin toutes les deux, avec un soutien et beaucoup d'amour qui a fait qu'aujourd'hui, elles sont encore extrêmement proches.
Et elles génèrent une joie de vivre.
Alors ça, c'est clair.
je reprends vos propres mots, en fait. Hein.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, des petites filles qui pouvaient, a priori, qui ne devaient pas s'asseoir aujourd'hui, elles font du vélo, elles nagent, elles font de la trottinette. Tout ce parcours-là, elles l'ont vécu ensemble. Ça a démultiplié leurs liens et fait que aujourd'hui, elles sont encore dans la même école. Elles suivent la même formation et je vous dis, elles se sont suivies. Dès qu'il y en a une qui savait faire quelque chose, quelques jours plus tard, la deuxième prenait le pas.
Mais finalement, ça, c'est vraiment le côté hyper positif de la chose. Parce que si l'une ou l'autre avait été seule, il n'y aurait pas eu de modèle à côté, il n'y aurait pas eu d'entraînement peut-être.
C'est ça, parce qu'en fait, elles ont un frère, mais qui a pas de soucis particuliers, qui est 4 ans plus âgé qu'elle. La preuve qu'il, dans ce cheminement aussi, en a pris une partie, puisqu'il fait des études d'ostéopathie. Elles ont fait corps, vraiment, d'un bout à l'autre. Ce qui, était complexe au départ, c'est de se dire...
Mais est-ce que c'est la maladie qui les a rapprochés ou est-ce que c'est le fait d'être vraies jumelles tout simplement ?
Non, parce qu'en fait, chez les jumeaux, c'est soit l'un, soit l'autre. Chez les jumeaux, c'est soit on est proche, voire fusionnel, soit on est assez éloigné. Et même chez les vrais jumeaux, on est soit dans l'une, soit dans l'autre des situations. Après, je pense que la maladie a renforcé leur lien et a renforcé le fait qu'elles pouvaient vivre. Qu'elle pouvait vivre cette maladie à deux et qu'elle pouvait grandir à deux et qu'elle pouvait s'entraider et qu'elle pouvait d'un bout à l'autre.
Elles en parlent aujourd'hui parce qu'elles ont 16 ans, elles sont capables de verbaliser certaines choses. Elles parlent de ça ou c'est vous qui le déduisez ?
Non, maintenant elles en parlent. Et puis après, à l'école, ça fait. Elles ont 16 ans, ça fait 12 ans qu'on entend que. Quand elles étaient en primaire, pour exemple, quand elles étaient en primaire, qu'il y en avait une qui finissait un exercice, elle se levait, elle allait voir l'autre pour l'aider à finir. Donc ça a été toujours comme ça. Et ce lien et ce support l'un pour l'autre a toujours existé et aujourd'hui en fait elles le verbalisent tous les jours quasi. Elles verbalisent leur amour, elles verbalisent la vie de l'une et de l'autre, qui même si elles sont très proches, elles sont très différentes parce qu'elles ont des caractères qui sont très différents. Et donc malgré tout, elles ont grandi au travers effectivement de leur gémellité, mais elles ont aussi grandi au travers de leur maladie et de l'entraide qu'elles se sont apportées tout du long de leur vie.
Et qui va continuer ?
Et qui va continuer.
Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Cédric Lecomte, vous êtes papa, mais vous êtes aussi salarié d'un groupe qui s'appelle la MGEN. Comment on fait pour concilier tout ça, d'être seul, hein, je rappelle que vous êtes divorcé. Je ne sais pas si la maman s'occupe de filles ou pas, mais bon, vous êtes en garde alternée, ok. En tout cas, voilà, une semaine sur deux, vous vous retrouvez seul avec vos deux filles, et ça depuis 16 ans maintenant, ou quasi. Et puis, vous conciliez votre métier et vous avez juste évoqué, en le survolant, le parcours, là, c'est ça, de école privée, école spéciale et ainsi de suite. Est-ce que c'est simple aussi, en France, là, d'être correctement, rapidement, efficacement fléché quand on est dans le cas de vos filles ?
Non, c'est tout du long. C'est tout du long un combat. Et en fait, quand on est au CAMS, on nous dit, au CAMS des Mureaux, donc elles ont entre 3 et 6 ans, 7 ans, on nous dit, y a à Conflans-Sainte-Honorine une école, puisqu'on on vivait dans les Yvelines, à Conflans-Sainte-Honorine, il y a une école qui possède ce qu'on appelle un CESA, donc c'est un endroit qui est à côté de l'école et qui permet de faire des soins psychomoteurs, ce que je disais, un ergothérapeute, un orthophoniste. Et puis en fait, là, on nous dit, écoutez, il y a pour la suite, pour leur arrivée au collège, il y a une fondation qui existe, qui est de l'autre côté des Yvelines, au-dessus de Rambouillet, à Richebourg. Et donc, vous pouvez postuler. Donc, on y va, on nous fait visiter. Et là, on nous dit, mais avoir une place, c'est très difficile.
Alors deux.
Mais alors deux, bon courage. Et si vous voulez que ça se passe, parce qu'en fait, ils ont approximativement 80%, ils ont 100 élèves, ils en ont 80 en internat et 20 en externat. Et nous, en fait, pour nous, il était inenvisageable de mettre les filles, elles étaient petites, elles avaient 10 ans, il était inenvisageable de mettre les filles en internat. Donc pour nous, c'est externat, on nous dit, faut déménager et venir vivre à côté. Donc on déménage, sauf qu'on a, au moment où on déménage, on est fin juillet, la rentrée c'est en septembre. On a déposé le dossier depuis 6-7 mois et on n'a toujours pas la réponse. C'est-à-dire qu'on a déménagé.
Donc ils sont partis comme aujourd'hui, dans le noir, mais à l'aveugle, en vous disant, bon, on va se rapprocher, on verra après.
Exactement. Et on va mettre toutes les chances de notre côté. Et puis, voilà. Et puis ensuite, il y a l'aspect, combattre, en fait. Appeler toutes les semaines pour savoir, est-ce que vous avez des places pour mes filles ? Et que tant leur maman que moi avons été au combat.
Et ça à chaque étape ?
À chaque étape, oui, à chaque étape, parce qu'en fait, les places, elles sont ultra limitées, et d'autant plus quand on fait le choix, comme nous, d'être, par exemple, en externat au moment où elles arrivent à la Fondation Mallet. Et donc très, très complexe. Et au final, pareil, début août, on nous dit, c'est OK, on vous les prend. Et on vous les prend toutes les deux. Avec là, l'assurance qu'elles soient là, qu'elles puissent être là jusqu'à leur 20 ans, 21 ans, puisque c'est, ils ont des enfants qui vont de 10 ans, et donc il y a tout le parcours, puisqu'ils ont un CESAD aussi qui est intégré, et puis ensuite il y a ce qu'on appelle un IEM, Institut d'éducation moteur, et puis après il y a ce qu'on appelle un FAM. Bon voilà, et donc ils ont toutes les jusqu'à 21 ans, et donc là, ça nous libère un peu, mais malgré tout, il y a tout le chemin parcouru, tout le combat, et en fait, la difficulté avec le corps médical qui, lui, vous donne toujours la situation la plus grave pour éviter que vous reveniez le voir en lui disant mais en fait c'est pas ce que vous m'aviez dit, donc il vous donne la situation la plus grave, comme elles ne s'assiront pas, elles ne marcheront pas, elles, et de cette façon là en se disant au moins les parents ils viendront pas me revoir pour me dire si un jour elles marchent que je leur ai dit qu'elles marcheraient pas. Et donc, il y a toutes ces difficultés-là. Et en fait, une fois qu'elles intègrent cette école-là, dans laquelle elles sont toujours, aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'elles y sont.
Et elles vont y rester jusqu'à 21 ans ?
Aujourd'hui, en fait, elles, c'est des bonnes élèves de cette école. Et donc, là, elles sont dans ce qu'on appelle en cycle pro. L'année dernière, elles ont eu leur CFG, certificat de formation générale, qui correspond au BEPC, mais dans leur cadre à elles. Avec un oral comme on l'a au BEPC, et donc c'était elles étaient très fières, c'était un grand succès pour elles. Et puis aujourd'hui en fait elles apprennent quatre matières pro différentes, tout ce qui est nettoyage, restauration, conditionnement, paysagiste, fleuriste.
Elles veulent faire le même métier toutes les deux?
Non, pas du tout. Il y en a une qui veut être fleuriste. Romane veut être fleuriste et donc elle participe déjà à des ateliers de paysagiste, et à partir de l'année prochaine elle fera des ateliers spécifiques fleuristes pour lui apprendre à harmoniser les couleurs, à faire des bouquets. Et puis ensuite Sophia, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux, extrêmement dans le contact, et donc elle voudrait faire de l'aide à la personne. Et donc, elle prend tout ce qu'on fait autour de la cuisine, de la restauration, de l'entretien, et donc pour pouvoir accéder à cette possibilité-là, avec pour objectif, on va dire, de préparer un CAP d'ici à... Donc là, elles ont fini la première année, donc d'ici 3 ans, en fait, de pouvoir peut-être présenter un CAP, et sachant qu'il y a des certifications au milieu qui peuvent leur permettre aussi d'aller travailler dans un ESAT, par exemple.
Et puis à terme aussi, pourquoi pas, un milieu ordinaire, parce qu'elles sont motivées, motivantes aussi, vos filles, Romane et Sophia.
Exactement, elles sont motivées, motivantes. Et en fait, c'est aussi ça qui nous a apporté, leur mère et moi, même si on a eu beaucoup de difficultés, même si au final, toutes ces difficultés-là et toute cette charge mentale pendant plus de 10 ans, on fait qu'on a...
Ça sert à quelque chose.
Mais par contre, aujourd'hui, effectivement, elles sont vraiment super, et elles sont vraiment dans... elles disent même que demain, dans tous les cas, aujourd'hui, à 16 ans, c'est comme ça qu'elles l'expriment, elles se disent que peut-être demain, le plus simple, ça serait qu'elles vivent ensemble, en fait.
Ou qu'elles se marient, ou qu'elles fassent ce qu'elles veulent. De toute manière, elles ont l'air décidées. Merci beaucoup, Cédric Lecomte, d'être venu dans le noir nous parler de cette... Ouais, j'appelle ça une belle histoire, parce que la manière dont on vous l'a raconté, c'est une belle histoire, malgré les difficultés.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.